Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
Les deux écoles d'Alexandrie et d'Antioche et leur rôle dans la crise nestorienne. Nous avons vu qu'au IVe siècle, la crise arienne portait sur la foi trinitaire. Au Ve siècle, la crise nestorienne portera sur la foi au Christ. Mais il y a une autre différence entre ces deux crises. Alors que l'arianisme a fini par disparaître, après avoir failli faire sombrer la foi chrétienne, la doctrine de Nestorius ou nestorianisme ne disparaîtra pas après que le concile d'Éphèse y aura répondu. Il existe encore aujourd'hui des églises dites nestoriennes, et cela rend d'autant plus utile pour le dialogue entre chrétiens de bien connaître ce qui s'est passé il y a presque 16 siècles. Au départ de cette crise, on trouve deux écoles théologiques différentes. L'une et l'autre essaient d'exprimer de la façon la plus précise possible le paradoxe du Christ, à la fois divin et humain. La première de ces deux écoles est appelée école d'Antioche, et c'est elle qui a formé Nestorius. La deuxième est appelée école d'Alexandrie, et c'est à elle que se rattache le grand adversaire de Nestorius, Cyrille. Il nous faut prendre un peu de temps pour nous pencher sur ces deux écoles. L'école d'Antioche a été fondée au siècle précédent par un grand évêque nommé Eustate. Grand adversaire d'Arius, Eustate veut souligner que la divinité du Verbe n'est pas diminuée par l'incarnation. Elle subsiste en plénitude. Mais il met une telle force dans cette affirmation qu'il a tendance à juxtaposer dans le Christ cette divinité avec l'humanité. Les expressions qu'il emploie sont révélatrices. Il dit que Dieu a revêtu l'homme tout entier. Et il va jusqu'à parler de l'homme assumé par le Verbe, comme s'il considérait que cet homme, Jésus, existait par lui-même avant d'être uni au Verbe. Il dit aussi que le jour de la résurrection, c'est l'homme mort depuis 3 jours qui ressuscite, et non pas le Verbe de Dieu qui est toujours resté auprès du Père. On voit tout de suite la difficulté. On a du mal à comprendre où est le principe d'unité qui fait du Christ un seul sujet et non pas deux. Eustate écrit que, je cite, « ni la mort subie, ni l'appétit de nourriture, ni le désir de boisson, ni le sommeil, ni la tristesse, ni la fatigue, ni l'effusion des larmes, ni un autre changement quelconque n'est légitimement compatible avec la plénitude de la divinité, laquelle est immuable de sa nature. » Tout cela, en revanche, poursuit-il, est à attribuer en propre à l'homme Jésus, composé d'une âme et d'un corps. En disant que c'est l'homme Jésus qui ressuscite le jour de Pâques et non pas le Verbe de Dieu qui est immortel, Eustate ne dit pas quelque chose de faux. Mais il ne parvient pas à expliquer comment la mort et la résurrection, comme d'ailleurs tout ce qui concerne Jésus, doivent être rapportés ultimement au Verbe de Dieu lui-même. Il s'agit là d'une règle théologique dont nous avons déjà parlé et qu'on appelle les appropriations. Elle consiste à approprier tout ce que vit, tout ce que pense, tout ce que fait, tout ce que subit l'homme Jésus au Verbe de Dieu lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a en Jésus un seul sujet, pensant, agissant et souffrant, et que ce sujet est divin. S'il y avait deux sujets, un sujet divin et un sujet humain, eh bien, le Christ serait double. On a donc raison de dire, par exemple, que c'est le Verbe de Dieu qui a souffert et qui est mort dans son humanité. Il n'a pas regardé de loin son humanité quand elle était en train de souffrir et de mourir, et même lorsque Jésus était au tombeau, son humanité a continué d'être unie au Verbe. L'union hypostatique n'a pas été interrompue dans la mort. Cette manière de tout rapporter au Verbe est quelque chose que Eustate d'Antioche a beaucoup de mal à comprendre et qui même le scandalise. Pour cette raison, on dit souvent que l'école d'Antioche est de tendance dualiste. Chez les théologiens d'Alexandrie, eh bien c'est tout le contraire. Ils sont très soucieux de ne jamais séparer dans le Christ la divinité et l'humanité. Pour eux, a écrit le grand théologien allemand Grillmayer, pour eux, le Verbe est le principe souverain et unique de toute l'existence et par conséquent le sujet de toutes les affirmations concernant le Christ. En cela réside, conclut Grillmayer, la supériorité de la formule d'Alexandrie sur la formule d'Antioche, qui est sur ce point très faible. Cette christologie unitaire a d'ailleurs de beaux antécédents dans l'histoire de la théologie. Saint Ignace d'Antioche, martyr en l'an 107, parlait dans ses lettres du sang de Dieu à propos du sang du Christ. Il parle de Dieu qui a été porté dans le sein de Marie et aussi de la souffrance de Dieu. Mais d'autres difficultés se présentent quand il s'agit de rendre compte de la phrase de saint Jean « Le Verbe s'est fait chair » Jean 1,14. Que veut dire exactement le mot « chair » On ne peut pas dire que c'est seulement le corps, car dans ce cas on retomberait dans les erreurs d'Arius et d'Apollinaire qui prétendaient que le Verbe s'était uni à un corps sans âme, ce qui faisait que le Christ n'était pas un homme complet, corps et âme. Alors, que signifie le mot « chair » Saint Athanase répond, en explicitant le propos de saint Jean, je cite, « Le Verbe ne s'est pas seulement fait chair, il s'est fait homme. » Heureusement, car ainsi que l'a fait remarquer saint Grégoire de Nazianze, seul ce qui est assumé, c'est-à-dire pris en charge par le Christ, est sauvé. Si le Christ n'avait pas assumé une humanité complète, eh bien, nous ne serions pas sauvés. Si sa chair n'était pas la chair de Dieu, l'Eucharistie ne pourrait pas être le pain de vie qui donne la vie éternelle. Et si sa mort n'était pas la mort d'un Dieu, il n'aurait pas pu se ressusciter lui-même et nous arracher à la mort. Tout va très bien donc dans la théologie d'Alexandrie. À une chose près cependant, cette théologie reste influencée par la pensée d'Apollinaire. On condamne certes l'affirmation d'Apollinaire selon laquelle le Christ n'avait pas d'âme humaine, mais en même temps on reprend les propos du même Apollinaire qui n'a pas de notion très claire de la personne et qui essaie de rendre compte de l'unité du Christ en allant chercher le principe d'unité dans la nature. De là, une expression que saint Cyrille reprendra plus tard en pensant qu'elle était d'Athanase alors qu'en réalité elle était d'Apollinaire. Je cite « Une seule nature incarnée du Dieu-Verbe ». Une seule nature incarnée du Dieu-Verbe. Aujourd'hui, nous dirions, mais c'est absurde de dire ça, car le Christ n'a pas qu'une seule nature, il en a deux, la nature divine et la nature humaine. Oui, bien sûr, mais ici, tout le mal vient de ce qu'à cette époque, on ne disposait pas encore de la notion de personne, et c'est ainsi que la nature divine du Christ remplace le mot « personne » qui fait défaut, alors que chez les Antiochiens, c'est la nature humaine qu'on a tendance à considérer comme une personne autonome. Le malentendu est à son comble entre ces deux écoles, au point de départ si différentes. Alexandrie considère d'abord le Verbe fait chair, et Antioche considère d'abord l'homme-Dieu. En l'an 428, le moine Nestorius se voit imposé par l'empereur Théodose II comme patriarche de Constantinople. La christologie dualiste originaire d'Antioche qu'il y trouve lui convient tout à fait. Mais comme on l'a vu, il va la pousser à l'extrême en rejetant catégoriquement le titre Théotokos, mère de Dieu, pour la Vierge Marie, et en s'attirant aussitôt la réprobation de la piété populaire. En effet, le titre de mère de Dieu remonte très haut dans la tradition chrétienne. On le trouve déjà dans la prière à Marie la plus ancienne que nous connaissions, le Subtuum Presidium, qui pourrait dater du IIIe siècle. Je cite cette prière, « Sous ta garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas la prière de tes enfants en détresse, mais délivre-les de tout danger, ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. » Nestorius n'est donc pas de bonne foi quand il prétend que ce titre de Mère de Dieu est une innovation. Mais l'idée dont Nestorius ne veut pas démordre, c'est qu'une créature ne peut pas engendrer la divinité et que Marie a donc engendré un homme, instrument de la divinité. On retrouve ici le problème de la personne. Il est vrai de dire qu'une créature ne peut pas engendrer la divinité, car on n'engendre pas une nature, mais une personne. Marie n'est pas mère de la divinité, elle est mère d'une personne divine qui s'est faite chair et non d'une personne humaine. Pour dire cela, nous utilisons spontanément des adjectifs plutôt que des substantifs. Nous ne disons pas que Marie est mère de la divinité, mais nous disons qu'elle est mère d'une personne divine. Nous ne disons pas non plus qu'elle est mère de l'humanité, nous disons qu'elle est mère d'une personne divine qui a pris la nature humaine. Et voyez, nous parlons toujours de la personne. La faiblesse de Nestorius, au contraire, est de partir de la nature, considérée abstraitement, et puisqu'il y a deux natures, d'entendre qu'il y a aussi deux personnes. Bien sûr, le peuple chrétien n'entre pas dans toutes ces subtilités, mais pour lui, comme pour l'apôtre saint Thomas, Jésus est mon Seigneur et mon Dieu, et Marie est la Mère de Dieu. C'est pourquoi les incidents se multiplient à Constantinople au fur et à mesure que Nestorius affirme sa doctrine. On en vient même à apposer des affiches sur les portes de la basilique Sainte-Sophie pour accuser le patriarche d'hérésie en disant qu'il croit à deux personnages différents, le Fils du Père et l'homme mis au monde par Marie. On interrompt sa prédication en pleine église, et les pour et les contre s'apostrophent bruyamment. Un autre jour, un évêque de passage prêche en présence de Nestorius et il exalte la Sainte Mère de Dieu. Nestorius prend la parole à son tour et affirme le contraire. À nouveau, c'est un grand tapage auquel prennent part les moines, qui sont très nombreux à Constantinople. On ne peut plus en rester là, il faut trancher. C'est ce que nous verrons dans le prochain entretien.